Paul à l'église de Corinthe, la première lettre de Paul à l'église de Corinthe. Donc une lettre qui s'adressait aux croyants qui composaient cette église. Première lettre de Paul à l'église de Corinthe, et nous lisons à partir du verset numéro 1. Verset numéro 1. Voilà ce que dit Paul. Je vous rappelle, frères, l'évangile ou la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Amen. Votre pasteur le disait, alors il m'a demandé un titre avant, plutôt un... C'est bon là, vous m'entendez? Voilà, il me demandait si j'avais un thème à donner à ces trois jours que je vais passer au milieu de vous, et j'ai eu à cœur de partager avec vous ce thème de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, nous en entendons souvent parler, et donc c'est ce que je voudrais partager avec vous, particulièrement au travers du culte de ce matin, sur le verset 10 de notre lecture, qu'on peut relire ensemble, où Paul dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » À trois reprises, ici, Paul fait mention de la grâce de Dieu. Et on sait l'attachement que Paul avait à la doctrine de la grâce, si on peut l'appeler comme cela. On pourrait dire aussi à l'alliance de grâce. C'est une autre manière de caractériser l'alliance nouvelle dans laquelle nous sommes en Jésus-Christ et au travers de son œuvre. Et donc il en parle à trois reprises. Et dans ce verset, à chaque fois, il met en relation la grâce de Dieu avec quelque chose de particulier. Et c'est de ces trois choses dont je voudrais m'entretenir avec vous ce matin, parler, méditer. Trois choses nouvelles que la grâce de Dieu nous communique. La première, c'est une nouvelle identité. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et même s'il fait allusion ici dans le contexte à son ministère d'apôtre, ou plus que son ministère, sa qualité d'apôtre, d'envoyé par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ, puisque apôtre signifie envoyé, je crois qu'au-delà du fait qu'il est apôtre, on peut bien entendu l'étendre à tout ce qu'il est en Jésus-Christ. Parce que ce « je suis » nous parle bien de l'être. Alors, je ne vais pas essayer de faire trop de parenthèses pour que nous ne perdions pas le fil de ce que je voudrais partager avec vous ce matin, mais déjà par rapport à l'être, Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Je suis né spirituellement, et ce n'est pas du tout péjoratif ce que je vais vous dire, mais je tiens quand même à le partager, parce que c'est l'expérience que j'ai vécue. Je suis né spirituellement dans une église que je ne vais pas nommer, où je bénis Dieu pour les conducteurs spirituels que j'ai pu connaître, des hommes qui étaient consacrés, et d'ailleurs Marie-Yvonne sait aussi d'où on vient. Mais j'ai beaucoup entendu parler de tout ce qu'il fallait faire pour le Seigneur. Et j'ai très peu entendu parler de ce que nous sommes en Christ. Et mes frères et sœurs, tout le faire de Dieu, tout ce que Dieu fait, découle de son être, de ce qu'il est. Et je crois que nous avons besoin, premièrement, d'apprendre à connaître notre identité en Jésus-Christ. Première chose, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. La deuxième chose qu'il met en évidence, c'est que la grâce de Dieu lui a donné une nouvelle motivation, de nouveaux désirs. Et puis la troisième chose qu'il met en évidence, donc ce nouveau désir, cette nouvelle motivation qui découle de la grâce, il la met en évidence puisqu'il dit « j'ai travaillé plus que tous ». Non pas qu'il cherche à entrer en concurrence avec ceux dont il parle, mais il met en évidence qu'il a travaillé, et il dit bien que c'est par la grâce de Dieu qu'il a travaillé plus que tous. Et puis, la troisième chose qu'il met en évidence, c'est une nouvelle capacité, puisqu'il met en évidence que tout ce qu'il a pu faire, tout le travail qu'il a pu accomplir, c'est uniquement par la grâce de Dieu qu'il a pu accomplir ces choses. Amen. Donc trois choses dont j'aimerais essayer de vous parler ce matin, non pas de manière exhaustive, c'est-à-dire complète, parce que ce n'est pas possible. Je vous invite à creuser peut-être le sujet personnellement, chez vous, vous donner des pistes, ou avec votre pasteur s'il le souhaite par la suite, ou peut-être que vous l'avez déjà abordé ce sujet, creusé, mais je pense que c'est fondamental. Tout d'abord, je voudrais quand même définir ce que c'est que la grâce de Dieu. La grâce, souvent, nous la caractérisons, la qualifions de cette manière, c'est, et je l'ai souvent entendu, aussi, c'est une faveur imméritée ou la faveur imméritée de Dieu. Alors, c'est vrai, mais ça peut réduire la grâce à quelque chose de beaucoup plus important. Une faveur ou la faveur imméritée, comme s'il n'y en avait qu'une. En fait, c'est beaucoup plus que ça. La grâce, c'est l'attitude de faveur de Dieu ou la disposition favorable de Dieu envers les hommes pécheurs, parce que sinon la notion de grâce, elle n'a pas de sens. On ne fait que grâce à des coupables. C'est la disposition ou l'attitude favorable de Dieu envers les hommes pécheurs, et quand je parle des hommes, je parle de l'humanité, de la nature humaine, pleinement manifesté et révélé, je dis bien pleinement manifesté et révélé en Jésus-Christ, parce que la grâce, elle existait déjà dans l'Ancienne Alliance. Mais pleinement manifesté et révélé en Jésus-Christ. Et cette grâce ou faveur de Dieu, révélée, pleinement manifestée en Jésus-Christ, est accompagnée de dons, et c'est pour ça qu'on parle de charisma, dans le grec, de dons de la grâce, de différents dons qui, je dirais, nous mettent en capacité de plusieurs choses. Par exemple, le salut, Ephésiens 4, 18, soyez remplis de l'esprit, mais Ephésiens 4 dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, ce n'est pas par les œuvres, mais c'est le don de Dieu. Et souvent, j'ai entendu que le don de Dieu fait référence à la foi. Non, ce n'est pas à la foi que ce don de Dieu fait référence, mais au salut. Donc le salut, c'est un don de Dieu, un don de sa grâce. La repentance, c'est un don de sa grâce. La Bible dit que Dieu a accordé dans un texte la repentance aussi aux païens. Même la repentance, c'est un don de la grâce de Dieu. Parce que qui est-ce qui nous conduit à la repentance? C'est Dieu, par l'action de son esprit, qui crée une tristesse selon Dieu, dit l'apôtre, dont on ne se repent jamais et qui nous conduit à la repentance. La foi, qui est-ce qui suscite la foi? La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, dit l'apôtre Paul. Jésus suscite la foi, démarre la foi. Donc c'est bien lui. Et la foi, je crois que c'est un don, la foi donnée au saint une fois pour toutes. Le Saint-Esprit est un don. Les différents charismas de Romains 12, de Corinthiens 12, pardon, 1 Corinthiens 12, sont des dons de la grâce, etc., etc. Donc, vous voyez que la grâce ne s'arrête pas au seul pardon des péchés, là où beaucoup malheureusement s'arrêtent, mais la grâce va beaucoup plus loin. C'est une disposition favorable de Dieu, la faveur de Dieu pleinement manifestée en Jésus-Christ, et qui est accompagné de dons qui mettent le croyant en capacité de plusieurs choses. Et donc, premièrement, la grâce nous donne une identité nouvelle. Paul attribue à la grâce de Dieu ce qu'il est. Il donnera ce témoignage à Timothée, qu'il était un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais... Dieu a manifesté envers lui sa miséricorde parce qu'il agissait dans l'ignorance, par incrédulité, et il ajoute la grâce de Dieu à surabonder avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Et c'est un terme, l'abondance ou la surabondance de la grâce, qui revient souvent, les richesses ou la richesse de la grâce. Donc la grâce, c'est plusieurs grâces en fait qui nous sont faites. Parce que Jean dit que nous avons reçu grâce sur grâce, ou une grâce après l'autre. Donc plusieurs qui sont dans la grâce, on pourrait dire cela de cette manière. Et donc, Paul attribue à la grâce de Dieu ce qu'il est bien devenu, ce qu'il est dans le Seigneur. Et j'aimerais vraiment vous encourager à connaître votre identité en Christ. Et pour connaître notre identité en Christ, c'est dans l'Écriture qu'il faut aller. L'Écriture dit dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues. » Nouvelle. Est-ce qu'on a besoin vraiment de comprendre ou de connaître plutôt par une révélation de l'Esprit de Dieu? Parce qu'on peut connaître avec son intellect, mais c'est une autre chose que de connaître les choses par révélation. Paul dit c'est par révélation que j'ai eu connaissance. Donc il y a de connaissance, je dirais, véritable que lorsque c'est révélé par l'Esprit de Dieu. On peut connaître avec notre intellect que Dieu est notre Père, mais c'en est une autre de vivre notre relation avec lui comme un Père avec son Fils. Et donc, ce qu'il est important de connaître et de croire, pas seulement de connaître, mais d'ajouter foi à ce que nous connaissons. Jean dit, nous avons connu l'amour de Dieu et nous y avons cru. Et donc, l'important de connaître ce qui nous caractérise en Christ, parce que cette expression « en Christ », elle est fondamentale. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et nous marchons non pas par la vue, mais par la foi. Et nous devons donc croire, non pas ce que nous ressentons, ce que nous voyons de nous-mêmes, mais ce que l'Écriture dit que nous sommes en Jésus-Christ, dans la mesure où nous sommes en Christ. Et si nous sommes en Christ, c'est à la grâce de Dieu que nous le devons. Paul, par exemple, dira 1 Corinthiens 1, 30, « C'est de par lui que vous êtes en Jésus-Christ. » Lui, c'est qui ? C'est de par Dieu. « Que vous êtes en Christ, lequel a été fait pour vous, ou pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption. » Donc, j'aimerais juste vous conduire un moment sur quelques réalités de la nouvelle identité qui est la vôtre, dans la mesure où vous êtes né de nouveau par votre union avec Christ, dans la mesure où vous avez été mis en Christ, dans la mesure où nous avons été régénérés, renouvelés intérieurement par l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que la connaissance de qui nous sommes va influencer notre faire. Je répète, la connaissance de qui nous sommes va influencer notre faire. Et moi, ce qu'on m'avait appris insidieusement, c'est que je devais faire pour être, puisqu'on mettait l'accent sur le faire. Et je pensais donc que si je faisais, j'étais. Mais c'est tout le contraire avec Dieu. Dieu nous invite à croire ce que nous sommes pour pleinement le devenir. Amen. Pleinement le devenir. Alors, il y a plusieurs choses. Et j'ai fait une liste. Mais avant de voir ce que nous étions en Adam et ce que nous sommes en Christ aujourd'hui, eh bien, j'aimerais vous dire que notre nouvelle identité, et j'avais vraiment à cœur de le partager lorsque je réfléchissais, je pensais sur ma chaise tout à l'heure, cette nouvelle identité que nous avons dans le Seigneur, eh bien, elle va contribuer, et elle est là pour contribuer à nous guérir de toutes les blessures émotionnelles que nous avons pu avoir. Des blessures émotionnelles, il y en a plein. Il y a le rejet, il y a l'humiliation, il y a la trahison, il y a l'injustice, il y a quoi d'autre ? Il y en a 5 en tout. Peut-être que vous pouvez m'aider, je ne me rappelle plus. Rejet, trahison, injustice, abandon, voilà. Vous savez qu'il y a des gens, parce qu'ils ont été abandonnés, ils vivent avec la peur, pas toujours consciente, d'être abandonnés. Ou parce qu'ils ont vécu un rejet, ils vivent avec la peur d'être rejetés. Toute cette nouvelle identité, elle est là pour nous soigner, pour nous guérir, nous libérer, nous sanctifier aussi. Et je pensais à l'exemple, et nous le verrons ensemble cet après-midi, de Méphibosheth. Celui qui a été laissé tomber à l'âge de 5 ans et demi, qui est devenu perclus des pieds. En fait, David, l'homme selon le cœur de Dieu, cherchait quelqu'un à qui il pourrait faire du bien à cause de Jonathan. Jonathan qui signifie celui qui a été donné. Et Dieu cherche encore aujourd'hui des hommes et des femmes à qui il pourra faire du bien. Non pas à cause de Jonathan, mais à cause de celui qui a été donné, Jésus-Christ. Amen. Et le bien que Dieu veut nous faire est dans ce salut qu'il manifeste en Christ. Et dans ce salut, regardez bien ce que David dira à Méphibosheth. Tu mangeras tous les jours à ma table comme un fils du roi. Lui qui se considérait comme un chien mort, impur, pas d'espérance, comme si sa vie était terminée. David lui dit, tu mangeras tous les jours à ma table comme un des fils du roi. Et il y a trois choses qui caractérisent le bien que David voulait faire envers Mephibosheth. C'est une nouvelle identité, comme un fils de roi. Une nouvelle relation, la table parle de communion dans la Bible. Et puis un héritage perdu qui va lui être restitué. Tout ça allait contribuer, non pas à guérir Mephibosheth physiquement, mais à le guérir intérieurement. Et j'aimerais vous dire que dans l'identité nouvelle que nous avons en Christ, des fois, vous savez, quand j'essaye de ne pas me disperser, mais je voudrais, moi, personnellement, dans le contexte spirituel dans lequel j'ai grandi, quand j'entendais parler de blessures, de l'enfance, etc., c'était un truc qui m'énervait quand j'entendais ces trucs-là, et pourtant, c'est tellement vrai. Tellement vrai. Des blessures qui ne sont pas toujours conscientes. Il y a dans l'identité nouvelle qu'il y a en Christ tout ce qui est nécessaire pour que tu guérisses de l'abus, de la violence que tu as pu connaître, endurer et vivre. Il y a tout ce qu'il faut pour te libérer de cette colère peut-être qui est en toi. Nous sanctifier de tous les problèmes de caractère que nous pouvons avoir. La peur de manquer, par exemple. Lorsque nous réalisons vraiment que Dieu est notre Père, nous pouvons être assurés que nous ne manquerons jamais de rien et qu'il pourvoira à ce qui nous est nécessaire. Amen. Il y a tout ce qu'il faut dans cette nouvelle identité pour que tout ce qui a conditionné négativement ta vie et ta relation peut-être avec Dieu, avec toi-même et avec les autres soit guéri, sanctifié, restauré, que tu sois libéré. Amen. Il y a tout dans cette nouvelle identité pour que tu deviennes l'homme, la femme que Dieu poursuit ou veut que tu deviennes. Et donc, la première grande réalité, c'est que nous sommes par la foi en Christ. Il est déjà cette heure-ci. Bon, on va essayer d'aller vite. Voilà, nous sommes devenus des enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. Fils et filles de Dieu, nous ayant prédestinés dans son amour à devenir ses enfants par adoption, selon le bon plaisir de sa volonté. Enfants de Dieu. Deuxièmement, Paul dit, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière. Non pas quand vous marchez dans la lumière, mais il dit bien, autrefois, voilà ce que vous étiez. Est-ce que vous étiez, eh bien, dans votre union avec Jésus, est mort ? Comme Paul le dit aux Romains, chapitre 6, nous sommes morts avec lui. Ce n'est pas seulement des images, c'est des réalités que Paul met en évidence pour qu'il y ait une application concrète, pratique dans leur vie. Et ce que nous étions est mort, a été enseveli par le baptême, et nous sommes ressuscités avec lui. Amen. Nous sommes unis à Christ par le moyen du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit vient appliquer la mort de Christ à nos vies, et nous ressuscite avec lui. Et la nouvelle créature que je suis, ce qui la caractérise, c'est que je suis un enfant de Dieu, un fils, une fille de Dieu. Et la grande bénédiction qui a été pour moi un jour, et je peux accepter que vous ne soyez pas d'accord, je respecte. Je dis souvent aux gens, ce que tu crois, je le respecte, mais voilà moi ce que je crois aujourd'hui dans le cheminement qui est le mien. Et l'humilité m'impose de te dire que voilà ce que je crois, voilà ce que tu crois, mais Dieu nous éclairera. Mais le jour où, dans ma chambre, alors que j'en pouvais plus, un moment difficile de ma vie, le jour où, alors que je me sentais tellement en deçà de ce que Dieu peut-être attendait de moi, que j'avais plus aucune force pour lire ma Bible, prier, j'étais épuisé de chez épuisé. Et à un moment donné, le Père Céleste m'a dit, tu es mon fils bien-aimé, en qui je mets ma joie, mon affection, mon plaisir, et je ne t'aime pas en fonction de tes performances spirituelles, mais je t'aime pour ce que tu es, mon fils. Dites-moi, quand votre fils est pas bien, quand votre fils ne va pas bien moralement, intérieurement, quand votre enfant souffre, est-ce que vous intéressez plus à ses performances à l'école? Est-ce que vous intéressez plus à ses devoirs, aux résultats qu'il amène, ou est-ce que vous intéressez à ce qui fait qu'il n'est pas bien? Quand votre fils ne fait pas ce que vous voudriez qu'il fasse, est-ce que vous ne l'aimez plus? Vous n'aimez peut-être pas ce qu'il fait, mais c'est votre fils que vous aimez. Et cette grande révélation que le Seigneur m'a accordée un jour, oui, que ce n'était pas seulement au fils unique qu'il le disait, mais que c'était aussi à moi. Tu es mon fils, bien-aimé, en qui je mets ma joie, mon affection, mon plaisir, non pas sur la base de tes accomplissements, mais sur la base de ce que tu es, de par ta foi et ton union avec Jésus-Christ. Et ça, ça vous sécurise, ça vous rassure, ça vous remplit de joie, ça fait du bien à votre cœur. Amen. Alors, je reviens à ma liste. Si on regarde tout ce que nous étions en Adam, il y a de quoi, comme Paul le dit, louer la gloire de sa grâce. Éphésiens 1. Pour que nous célébrions la louange de la gloire de sa grâce qu'il a manifestée dans le Fils. Nous étions des injustes, des coupables, des pécheurs, des iniques, des impies, des souillés. Mais nous avons été graciés. Paul dit, nous sommes justes et saints. Amen. Oui, juste et saint. Tu peux regarder, je ne le ferai pas. Quand je dis aux gens et je fais le test, est-ce que tu es saint? Mais les gens regardent plus à ce qu'ils voient aujourd'hui de leur vie plutôt qu'à ce que Dieu dit. Paul dit aux saints et aux fidèles qui sont à Éphèse. À l'église de Corinthe où il y a plein de problèmes, il dit à ceux qui ont été sanctifiés. Quand vous sanctifiez quelque chose, c'est que vous le rendez saint. Dans la deuxième épître, toujours aux Corinthiens, il adresse cette lettre aux saints qui sont à Corinthe. Et quand je fais le test et que je dis à un couple, est-ce que ta femme est sainte dans le Seigneur? Ou quand je pose la question directement à ces personnes, ils ont du mal à dire, oui, je suis un saint. Un saint maintenant, et puis un saint aussi en devenir. Et on en revient à la grande réalité de l'évangile. Il y a un déjà et un pas encore. Il y a un maintenant et il y a un devenir. Amen. Pratique, concret. Mais nous sommes déjà. Et c'est bien parce que nous sommes déjà en Christ, avec un cœur nouveau, des dispositions de cœur nouvelles, des élans nouveaux. C'est faux de dire à un chrétien qu'il n'a pas la crainte de Dieu et de citer Ésaïe 9. Parce que qu'est-ce que Paul dit? Qu'est-ce que Jérémie dit? Il dit, je vais traiter avec eux une alliance éternelle, je mettrai ma crainte dans leur cœur. Et on est tous d'accord que si on est né de nouveau, on a une disposition de cœur qui est la crainte de Dieu. Maintenant, que nous apprenions à la manifester pratiquement et concrètement, cette disposition nouvelle, c'est tout le défi de la marche par l'esprit et par la foi dans ce que nous sommes en Christ. Alors, nous étions perdus, morts dans nos offenses. Tout ça, c'est ce que dit la Bible. Nous avons été retrouvés, rendus à la vie. La Bible dit que nous étions des enfants de colère, des fils de la rébellion. Et il a fait de nous des fils et des filles de Dieu. La Bible dit que nous étions ennemis de Dieu. Et il nous a adoptés comme ses enfants. Nous étions sous la malédiction de la loi. Et il nous a bénis de toute la plénitude des bénédictions spirituelles qui sont dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous vivions selon les convoitises de notre chair, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Nous étions étrangers à la vie de Dieu, mais nous sommes participants de la nature divine aujourd'hui. Nous manquions d'intelligence, nous étions fous et insensés, et il a déversé sur nous toute espèce de sagesse, d'intelligence, dit la Bible. Il y a de quoi louer Dieu, non ? Pour sa grâce. Et si on vit avec cette pensée, il n'y aura personne le dimanche qui nous dira « Allez, vas-y, loue Dieu !» Parce que nous chanterons sous l'inspiration de la grâce. Nous chanterons, comme le dit Paul, eh bien, notre reconnaissance à Dieu à cause de sa grâce. Nous étions des gens du dehors. Nous sommes devenus des gens de sa maison. Nous étions sans Christ. Mais nous sommes en Christ aujourd'hui et avec Christ, et lui avec nous. Nous formons un avec lui, bien que différents, mais nous sommes une même plante. Il est le cep et nous sommes les sarments, gloire à Dieu. Nous sommes rendus capables, de par notre union avec lui, de porter du fruit. Nous sommes participants de sa vie et de son ministère. Nous avions des cœurs de pierre, mais il nous a donné un cœur de chair. Nous étions orphelins, esclaves, mais il a fait de nous ses enfants, gloire à Dieu. Nous étions pauvres, aveugles, nus. Nous avons été enrichis par sa grâce. Nous avons été revêtus des vêtements du salut. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, il nous a rendu la vue. Mais c'est pas beau ? Il y a de quoi louer le Seigneur. Amen. Nous sommes des saints, des fidèles, des justes. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ, une brebis du Seigneur, une pierre vivante, un membre du corps de Christ. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit « Je suis un élu, un fidèle, un bien-aimé. » Un bien-aimé. Non pas seulement les bien-aimés dans l'Église, mais nous sommes les bien-aimés de Dieu. Et ça me fait penser à ce texte concernant Léa, où il est dit que l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Et tu n'as peut-être pas été aimé comme il aurait fallu que tu sois aimé. Même dans la plus parfaite des familles. Cette nouvelle identité, elle va nous libérer de tous les faux prophètes que nous avons pu connaître, tous les mensonges. Tu es nul, tu es moche, qui conditionnent notre vie. Tous les faux prophètes qui ont agi, cette idée de performance peut-être, c'est pour ça que je ne peux pas tout vous citer, que les parents nous ont inculqué. Il faut que tu sois le meilleur. Toutes ces blessures, par exemple, des rapatriés d'Algérie qui vivent encore avec leurs blessures en eux-mêmes et qui ont encore des relents à l'égard de certaines communautés. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas été guéris de ce rejet. Rejet des hommes, des abus pastoraux aussi. Il y a dans cette nouvelle identité tout ce qu'il faut pour devenir, pour vivre une vie épanouie d'enfant de Dieu et pas d'esclave ou d'orphelin. Amen. Alors creusez, connaissez. Paul dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu, citoyens du ciel. Nous sommes des oins. Oui. Souvent, on a mis la menace. Il ne faut pas toucher à loin de l'Éternel. Mais ce n'est pas que le pasteur qui est oint de la part de Dieu. C'est tous ceux qui sont nés, qui ont reçu, comme l'apôtre dit, nous avons reçu l'onction de l'Esprit. C'est facile de... Mais non. Alors si je vous pose la question, est-ce que vous êtes ce que vous faites ? Ça, vous allez me suivre. Ou est-ce que vous faites ce que vous êtes ? Je répète, peut-être vous allez dire, il nous embrouille trop, lui. Est-ce que vous êtes ce que vous faites, ou est-ce que vous faites ce que vous êtes dans le Seigneur ? On fait ce qu'on est. Et tu n'es pas ce que tu fais. Mais tu fais ce que tu es. Et c'est ce que Paul dit. Il dit par exemple, dans l'Épître aux Éphésiens, il nous exhorte à rejeter certaines choses, ainsi qu'il convient à des saints. S'il les encourage à rejeter ces choses, c'est bien parce qu'elles sont présentes dans leur vie, pour certains. Et il veut les amener à la conscience, à la révélation que maintenant qu'ils sont saints, ou membres du corps de Christ, qu'il ne s'agit pas de mettre un membre du corps de Christ avec une prostituée, par exemple. Il ne dit pas « parce que vous faites cela, vous n'êtes pas ». Il dit « parce que vous êtes, voilà ce que ça inclut, voilà ce que ça devrait avoir comme conséquence, voilà ce que ça doit engendrer comme changement ». Amen. Deuxièmement, et là je vais aller plus vite, eh bien il a une nouvelle motivation, ce désir qu'il a de travailler à l'œuvre du Seigneur. Je crois que quand on est imprégné vraiment de la grâce, eh bien le désir vient de lui-même de travailler à l'œuvre du Seigneur. Et il n'y aura personne qui vous dira « Allez, il faut que tu travailles, il faut que tu te mettes au boulot ». Vous voulez que je vous le montre ? On va juste prendre un texte de l'Écriture dans Ésaïe 6. Ésaïe chapitre 6. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur, verset 1, assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu. » Prise de conscience de quelque chose, conviction de péché devant la sainteté de Dieu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais, notez bien ce « mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Expiation, comme l'expiation que Christ a faite à la croix. Grâce de Dieu qui se manifeste ici. Pour pardonner et purifier Ésaïe. Regardez ce qui prend place. J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Souvent on s'arrête au verset 8 ou on le dissocie du verset 9. J'aimerais vous dire que quand vraiment nous expérimentons la grâce de Dieu, que nous vivons dans la grâce, que nous sommes renouvelés dans la pensée de la grâce et des grâces qui nous ont été accordées. Un désir naît, c'est de répondre à l'appel du Seigneur. De répondre à l'appel de Dieu qui veut nous envoyer dans nos quartiers, sur notre lieu de travail, dans nos familles. Parce que servir Dieu, avant de servir dans l'Église, c'est servir dans nos maisons, dans nos familles, dans nos foyers, sur notre lieu de travail. Nous pouvons servir Dieu autrement que dans l'Église. Mais quelqu'un qui vit avec la conscience de la grâce répond à l'appel du Seigneur. Me voici, envoie-moi. Bien sûr, dans le cadre de l'appel qui est le sien, dans le cadre des dons qui lui ont été faits pour servir. Mais vraiment, la grâce, lorsqu'elle touche un cœur, elle fait lever une personne, elle dit « Me voici, envoie-moi Seigneur. Je réponds à ton appel. Je veux faire ta volonté. Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Amen. Alors, il a travaillé à l'œuvre du Seigneur. Il a travaillé à plusieurs choses. Il a travaillé, et la Bible dit, et il écrit à toute l'église de Corinthe dans cette perspective. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Comme si pour Paul, c'est logique qu'il travaille, non pas de plus en plus, mais de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Et quand on est dans le faire, on veut toujours en faire plus. Alors que Dieu nous appelle à faire de mieux en mieux. Alors il a travaillé à répandre l'évangile. Il a travaillé à édifier la foi des croyants. Il a travaillé à faire des disciples. Il a travaillé à l'œuvre du Seigneur. Et l'œuvre du Seigneur nous rappelle qu'elle appartient au Seigneur, cette œuvre. Et que son œuvre, c'est de bâtir l'Église, c'est de construire, c'est d'ajouter des pierres vivantes à l'édifice spirituel. Et il nous fait la grâce d'entrer dans cette œuvre. Amen. Voilà. Et puis, je vais terminer. Alors, ça mérite d'être creusé, tout ça. Et puis, il dira, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Il dit ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu accomplir, c'est l'expression de la faveur de Dieu à mon égard. Et j'aimerais vraiment que nous comprenions que la grâce de Dieu, qui donc se résume quelque part dans bien des choses, mais le fait que nous ayons été mis en Christ, que nous soyons unis à lui par l'Esprit, nous rend capables. Non pas capables de faire tout ce qui nous passe par la tête, mais nous rend capables de devenir, comme je le disais tout à l'heure, nous rend capables de devenir ce que nous sommes déjà en Christ, nous rend capables, comme Paul le disait, je puis tout par celui qui me fortifie. Et dans le contexte, c'est quoi? J'ai appris à être dans l'abondance et dans la disette. J'ai appris à être dans le manque et dans l'abondance. J'ai appris à vivre à Montpellier, en ZUP ou dans les quartiers les plus huppés. Et il dit bien, j'ai appris, parce qu'on apprend avec le Seigneur. J'ai appris à habiter à Lille comme à Marseille. J'ai appris, le Seigneur est en train de nous apprendre. Depuis qu'on est arrivé dans la région, notre fils, qui n'a pas supporté le déménagement, est reparti. Bien sûr, il est reparti avec notre accord. Mais nous devons aujourd'hui, mon épouse et moi, apprendre à vivre, à être heureux, content, satisfait, à servir quand même Dieu, malgré le fait qu'il soit reparti. J'ai appris, je peux tout par celui qui me fortifie. Oui, le ministère de la nouvelle alliance, c'est-à-dire de la grâce ou de l'esprit, parce que le ministère de la nouvelle alliance, c'est le ministère de l'esprit, le Saint-Esprit nous rend capables. Et la grande révélation, c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. C'est qu'à la Pentecôte, ils ont été rendus capables de faire naturellement ce qu'ils ne pouvaient pas faire, parler dans des langues qu'ils n'avaient pas apprises. Et le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, nous rend, oui, capables de devenir, de faire tout ce que Dieu nous appelle à faire. Il nous rend capables d'aimer nos ennemis. Il nous rend capable de pardonner. Il nous rend capable de servir là où il nous place. Il nous rend capable de nous réjouir avec une église de 2000 membres ou une église de 40, 30, 10. Et il nous rend capable d'avoir le même zèle dans ce petit groupe. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis capable d'aimer. Je suis rendu capable de donner, je suis rendu capable de vivre libre, je suis rendu capable d'obéir, de me réjouir, je peux dire non dans la grâce, je peux dire non La grâce nous enseigne à dire non à l'impiété, aux convoitises mondaines. Elle nous enseigne, dit la parole, à dire non. Elle me rend capable de dire non, la grâce. Alléluia. Je suis rendu capable de servir. Je suis rendu capable de me relever lorsque je chute. Je suis rendu capable de triompher. Amen. Je suis rendu capable. Tu peux. Et dès lors que les choses entrent dans le cadre de la volonté de Dieu, du projet de Dieu pour toi, comme Jérémie, et je termine là-dessus, Jérémie, Dieu l'a rendu capable de parler. Il lui a touché la bouche. Et Dieu te rend capable de parler. Dieu te rend capable d'être transformé. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui le visage découvert, référence à la grâce et plus à la loi, nous sommes transformés de gloire en gloire à son image. Alors on va se recueillir. Trois choses. La grâce nous communique une nouvelle identité. La grâce nous communique une nouvelle motivation, de nouveaux désirs. Le désir de marcher dans la sainteté, de travailler, le désir d'aimer, d'aller à l'église. Personne ne m'a dit « arrête de fumer » parce que je ne voulais plus. Amen. On va se recueillir ensemble. Et par rapport au point que j'ai partagé tout à l'heure, je suis persuadé qu'il y a des personnes ici qui ont vécu des blessures et que la nouvelle identité qu'ils ont dans le Seigneur peut les guérir. Et peut-être que tu peux dire au Seigneur, ouvre mes yeux. Le besoin d'être accepté des autres. Le besoin finalement d'être aimé. Tout ça, tu le trouves dans le Seigneur. Père, merci pour ta parole. Merci pour la grâce de Dieu qui ne s'arrête pas au seul pardon des péchés. Et oui, dans la grâce, nous apprenons à connaître notre identité nouvelle, à marcher selon notre identité nouvelle, dans la plénitude de l'Esprit et par la foi. Dans la grâce, nous sommes rendus capables de devenir, de faire, d'accomplir, d'être ce que tu as fait déjà de nous, Seigneur. Je prie pour ma propre vie. J'ai désespérément besoin d'être éclairé encore sur tout le potentiel de la grâce. Oui, et je prie pour mes frères et mes sœurs également, pour les amis peut-être qui sont là. Je prie qu'ils découvrent ta grâce. Je prie que, ton peuple vive dans la grâce. Oui, je te loue et je te bénis pour l'œuvre de grâce que tu fais dans ma vie et dans nos vies, Seigneur. Amen.